Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, la batterie selon Blue Note avec Laurent Bataille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 86e émission du Matin des musiciens du mardi consacrée au jazz comme chaque semaine. C'est la première émission de cette troisième saison. Je suis heureux de vous retrouver après un été où vous avez pu écouter quelques rediffusions d'émissions qui vous avaient marqué la saison dernière. Nous allons continuer à nous pencher sur l'histoire du jazz à travers ses figures, ses instruments, ses écoles, ses périodes. Et pour illustrer cette diversité d'approches, ce matin, nous allons nous intéresser à une manière originale d'envisager la place et le rôle de la batterie dans le jazz, puisqu'elle participe d'un point de vue esthétique, celui du label Blue Note, dont la production a été très florissante dans les années 50 et 60. À travers le jeu de quelques batteurs emblématiques, c'est toute une vision du jazz que nous allons explorer, du shuffle d'Art Blakey au jeu avant-gardiste de Joe Chambers, en passant par la virtuosité de Philly Joe Jones, l'efficacité d'Art Taylor et le groove de Billy Higgins. Chemin faisant, on croisera la route de quelques têtes d'affiche du label, les saxophonistes Hank Mobley et Jackie McLean, l'organiste Jimmy Smith, les trompettistes Lee Morgan et Freddie Hubbard, les pianistes Sonny Clark, Herbie Hancock et Andrew Will, ou encore le vibraphoniste Bobby Hutcherson, qui, chacun à leur manière, ont su enrichir ce catalogue. Car Blue Note, ce n'est pas seulement un label, reconnaissable par son unité visuelle, par la constance de ses partis pris en matière de prise de son et par l'engagement de musiciens réguliers. Blue Note, c'est aussi un formidable laboratoire d'expérience, des albums conçus comme des sets de concert, jusqu'aux tendances les plus expérimentales de l'époque. Et pour parcourir ce catalogue au son de ses batteurs, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans ce studio un musicien qui connaît bien ce répertoire et qui est bien sûr lui-même batteur. Bonjour Laurent Bataille.
Bonjour Arnaud Merlin.
Alors vous êtes collectionneur du son Blue Note et des albums Blue Note, Laurent ?
J'ai classé chez moi tous les albums Blue Note dans un coin parce que pour moi c'est tellement une entité au sein du jazz, quoi, en termes visuels, vous l'avez dit, et en termes sonores, parce que le son Blue Note, et surtout en termes de musique, parce que c'était vraiment pour moi un passage entre le swing et l'avant-garde.
Blue Note est né en 1939. C'est Alfred Lion qui a créé ce label. Il a été rejoint quelques temps plus tard par Francis Wolff. Mais au tout début, c'est vraiment le jazz ancien qui est privilégié. Le boogie-woogie avec Albert Ammons et Middlex Lewis. Et puis ensuite, assez vite, Sidney Bechet. Et puis, au début des années 40, ils font la connaissance de Ike Quebec, qui est un musicien de la nouvelle génération qui va leur présenter tous les musiciens du bebop. Et c'est ainsi que dans les années 50, on va voir apparaître vraiment toute la génération du bebop, plutôt même de ce qu'on appelle le hard bop. Hein. C'est plutôt ça, Laurent.
Oui, ça va commencer avec le bebop, et c'est vrai qu'après, assez vite, il va y avoir tous les groupes, tous les quintettes hard bop, les quintettes sextettes, etc. Et c'est vrai que c'est un peu cette période-là qu'on va cerner ici. Bien sûr que la batterie selon Blue Note, ça aurait pu impliquer des dizaines de batteurs, dont des seconds couteaux, des rythmiques, tout un tas de solistes. Il y a même des groupes comme The Three Sounds qui étaient commercialement très appréciés du public. Et je pense que l'une des forces de Blue Note, c'est d'avoir privilégié quelques icônes comme ça commerciales, comme Jimmy Smith, comme The Three Sounds, comme Horace Silver, qui marchait très bien. Et à côté de ça, on trouve des gens comme Andrew Will, beaucoup moins commerciaux.
Plus avant-gardistes.
Beaucoup
on en
plus avant-gardistes.
Et
je trouve que c'est vraiment une force de ce label.
Alors, il y a donc les fondateurs, Alfred Lion et Francis Wolff. Il y a le conseiller musical, parfois occulte, parfois officiel, Ike Quebec. Et puis, il y a aussi le preneur de son, l'ingénieur du son, c'est Rudy Van Gelder. Lui, il arrive en 1953. Et pour compléter ce tableau, il y a le concepteur des pochettes qui sont magnifiques et qui sont signées Red Miles à partir de 1956. On se plonge tout de suite dans l'ambiance du son Blue Note avec Jackie McLean en 1959. Thank you. Janvier 1959, enregistré par Rudy Van Gelder pour le catalogue Blue Note. Jackie McLean, qui s'initie quadrangle avec à la trompette Donald Byrd, au piano Sonny Clarke, à la contrebasse Paul Chambers et à la batterie Philly Joe Jones. Alors comment ça marchait Blue Note, Laurent Bataille? On conseillait à un leader de prendre une certaine rythmique ou bien les leaders arrivaient avec leur groupe constitué?
Souvent il y avait une rythmique qui n'était pas imposée mais qui était conseillée. En tout cas, il y a une chose qui était assez caractéristique à Blue Note, c'est qu'ils avaient le temps de répéter, le temps et les moyens qu'on les payait pour répéter, ils avaient un studio à leur disposition, etc. Il y avait plusieurs cas de figure. Soit le leader arrivait avec un répertoire et choisissait sa rythmique et c'est le groupe qui venait, s'il était validé par tout le monde. Ou alors, effectivement, il y avait un leader qui arrivait et on savait que la rythmique, ça allait être pas toujours les mêmes, mais souvent, on voit des noms revenir et on verra que Philly Joe Jones, bien sûr, et Paul Chambers étaient assez présents.
C'est la rythmique de Miles Davis, c'est la même époque, hein, donc c'est une rythmique qui fonctionne.
Miles, ça. Exactement, ça fonctionne un
problème.
Petit peu. Oui.
Alors, ce qui est assez particulier, c'est que tous ces musiciens, contrebassistes et batteurs, ils sont presque tous des noirs.
Ils sont tous noirs.
Donc, il y a un parti pris.
Ouais. Et je ne sais pas s'il y a un parti pris. Bon, il se trouve que les patrons étaient blancs et ils avaient bien compris quand même qu'à cette époque, cette énergie, cette excitation du jazz de l'époque venait quand même des musiciens noirs. C'est vrai qu'il se passait des choses sur la côte ouest, il se passait bien sûr des choses avec les musiciens blancs. Il y a une énergie, une excitation et une écriture aussi de la part des solistes. Et souvent, effectivement, les sections rythmiques étaient composées de musiciens noirs, oui.
Ce matin, on va prendre le parti du batteur. Hein. Ouais. Ça vous convient en particulier,
ça me convient.
Laurent. On ne parlera pas d'Elvin Jones, Jones et de Tony Williams, puisqu'on leur a déjà consacré chacun une émission dans cette série. Et puis, Kenny Clarke et Max Roach, qui sont les pères fondateurs de la batterie bebop, sont assez peu présents chez Blue Note.
Alors, ils sont assez peu présents. C'est ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire que toute cette période Blue Note, elle marque un passage. C'est-à-dire qu'effectivement, Kenny Clarke, Joe Jones avant lui et les rythmiques qui lui sont associés, Kenny Clarke, Max Roach, c'est vraiment le bebop à 100%. Et là, on est dans le passage après le swing entre le bebop et l'avant-garde, quoi.
Il y a un autre musicien qui est manquant, c'est Roy Haynes, dans les batteurs très importants de cette époque.
Alors,
et pourtant, il était noir.
Il était noir, il jouait magnifiquement bien, il incarnait la tradition et la modernité, mais il m'a raconté dans une interview plus d'une fois que les producteurs avaient cette habitude de fidéliser certains musiciens, justement les rythmiques, en les payant à moitié avec de la drogue. Donc Roy n'était pas tellement preneur, lui il aimait les espèces sonnantes et trébuchantes, c'est pour ça qu'il était avec Sarah Vaughan d'ailleurs.
Alors on va se concentrer sur quelques batteurs essentiels qui enregistrent beaucoup chez Blue Note, et le premier d'entre eux c'est Art Blakey. Art Blakey, c'est presque un symbole pour Blue Note.
Ah, c'est un symbole, il a enregistré énormément de disques pour Blue Note et dès les débuts en tant que leader et en tant que batteur, et c'est vrai qu'il savait aussi bien faire le sideman, c'est ça une de ses forces, et on verra que toutes les rythmiques Blue Note, il y a ce trait de caractère, c'est qu'il fallait être sideman quand même. Tous les batteurs qu'on retrouve très souvent chez Blue Note savaient aussi se mettre au service de la musique, et Art Blakey c'est le roi pour ça. Thank you.
Benny Golson nous pardonnera d'interrompre ce morning de Bobby Timmons, le pianiste des Jazz Messengers, du batteur Art Blakey, avec ce splendide solo de trompette de Lee Morgan. Aux côtés d'Art Blakey à la batterie, il y avait aussi Jimmy Merritt à la contrebasse. Laurent Bataille, ce qu'on entend Art Blakey jouer ici, est-ce que c'est ce qu'on appelle le shuffle ?
C'est un shuffle et Art Blakey a vraiment... porter ce rythme tout au long de sa carrière avec des variations, là on entend, c'est à la fois relax, mais j'ai l'impression que ça préfigure le rock en fait. Il bouge pas de ça.
Une très grande régularité. C'est quelqu'un qui était capable aussi de percussions très, très vives. On dit qu'il avait plus ou moins étudié en Afrique. En tout cas, il connaissait la percussion africaine.
Oui, c'est l'un des batteurs les plus africains, définitivement, ouais. du jazz, c'est certain. On l'entend pareil tout au long de sa carrière. Il va jouer vraiment des tomes, des pots. C'est un batteur de cymbales, bien sûr. Il les gère magnifiquement bien. Il gère sa cymbale Charleston, très caractéristique. On entend ce chut. Tous les deuxième et quatrième temps.
La Charleston, c'est la double qui se trouve au pied gauche du batteur. Quand
il est droitier. Et donc, on entend ce chic, on entend le backbeat donc jouer sur le deuxième et quatrième temps. Il gère ses cymbales, mais c'est un batteur de peau. Et on entend dans beaucoup de ses solos et dans Nineteen Tunisia, qu'on va entendre juste après, qu'il aime ça. C'est vraiment un batteur de tambour. We'll be right back.
Night in Tunisia, le thème de Dizzy Gillespie, enregistré ici par les Jazz Messengers du batteur Art Blakey, avec à ses côtés Lee Morgan à la trompette, Wayne Shorter au saxophone ténor, qui jouait aussi des petites percussions pendant toute l'introduction de Art Blakey, Moby Timmons au piano et Jimmy Merritt à la contrebasse. C'était en 1960 une version du Feu de Dieu, Laurent Bataille.
Ah, c'est incroyable. On aurait dit qu'ils sont en live, quoi. Franchement, ouais. Il y a une énergie... Incroyable.
Une façon pour Art Blakey d'impulser quelque chose de très corporel finalement.
Ah oui, puis il n'avait pas énormément de technique. Blakey, il avait été pianiste au départ et puis bon, il a été batteur. C'était un petit gabarit, mais il avait un rythme incroyable et puis une énergie folle, quoi. Et ce qu'il faisait techniquement, il le faisait magnifiquement, il le faisait sonner comme il faut, quoi.
On peut peut-être l'écouter toujours avec les Jazz Messengers, mais dans un autre exercice, une sorte de groove tout simplement.
C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Blue Note, il y a toujours du groove là-dedans. Donc ouais. Là, on vient d'entendre un latin. Les producteurs devaient demander aux leaders et aux groupes...
De composer un album.
Voilà, ouais. De composer un album. Et dedans, sans être commercial pourtant, il fallait quand même qu'il y ait un morceau rapide comme on vient d'entendre là, une balade et peut-être un morceau un peu groovy.
Donc l'exposition de ce thème So Tired de Moby Timmons, mais on voit bien ici l'alternance entre la première partie du thème et la deuxième partie du thème. On voit beaucoup ça chez Blue Note, hein. Des thèmes comme ça, très groove, où on revient en swing sur le pont.
Tout à fait, on pourrait écrire tous ces grooves, ce qu'on appelle les grooves, c'est des patterns en fait, c'est-à-dire on entend le cercle, on entend le tom, la contrebasse qui joue en deux temps, etc. On pourrait l'écrire, ça correspond à des notes, ça correspond à des croches, à des soupirs, des noirs, etc. Mais en fait, il faut vraiment l'écouter pour se nourrir de ce qu'était le jazz des années 60, et spécifiquement chez Blue Note, il y avait ce groove, ce placement qui est si incroyable et qui danse tout le temps, qui est vraiment très très essentiel à mon avis à connaître.
Dès le milieu des années 1950, Art Blakey est à la tête des Jazz Messengers, même si Horace Silver sera le directeur musical pendant un temps, il reprendra les Jazz Messengers à son nom, mais Art Blakey est surtout connu comme leader jusqu'à sa disparition, mais il a tout de même accompagné un certain nombre de séances.
Énormément, ouais. Énormément quand même. Ouais.
Alors chez Blue Note, par exemple, on le trouve aux côtés de Jimmy Smith, l'organiste. Est-ce qu'il joue pareil, comme chez lui ?
Il joue comme chez lui. Bon, il a cette personnalité de rythmicien extraordinaire. Là, dans le thème qu'on va écouter, on reconnaît vraiment que c'est lui qui phrase le thème. Il phrase les thèmes vraiment à sa manière. Et par contre, après, sur le solo de Kenny Burrell et des autres musiciens, il fait entre guillemets que la cymbale et la charleston et il se met au service du soliste. Et il n'intervient pas. Par contre, le thème est vraiment phrasé à sa manière. Thank you.
Février 1958, le batteur Art Blakey en situation de sideman, autrement dit d'accompagnateur pour l'organiste Jimmy Smith. On entendait ici la guitare de Kenny Burrell. Laurent Bataille, peut-être qu'on peut donner quelques exemples à l'instrument, puisque vous avez monté votre batterie ici au studio 106 à Radio France pour le Matin des musiciens sur France Musique.
Art Blakey est un batteur très technique, par contre il a des plans, il a des sonorités. Alors on va essayer de voir ça, on va commencer par le shuffle qu'on a écouté tout à l'heure. Je vais vous donner deux exemples de shuffle à la suite. Donc c'est un battement très régulier, on entend la Charleston sur le deuxième et quatrième temps. On entend la caisse claire qui vient appuyer ce battement régulier. Avec des coups qui sont piano, d'autres jouent plus forté. Et ensuite la cymbale qui peut jouer soit des noirs, soit le ding-a-ding que l'on connaît dans le jazz. Il pouvait également ne jouer que des noirs, c'est le cas par exemple sur le Blues March, que des noirs avec tous les membres, ça donne ça. Voilà, ensuite effectivement on a dit que c'était un groover-né, c'est-à-dire qu'il pouvait sur certaines versions ne faire que ce motif-là, qu'on entend par exemple sur Love for Sale je crois. Il était capable de tenir ça pendant tout le morceau. Ensuite, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est ce qu'on appelle le roulement sac de charbon. Comme si c'était un sac de charbon qui se déversait. Donc pour marquer des transitions, souvent, il fait ce roulement crescendo. Il donne un coup sur ces deux cymbales qui sont des deux grosses cymbales crash. Et après, il les arrête tout de suite pour repartir sur une nuance piano. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment une de ses signatures. Après, il avait des tics, c'est-à-dire sur les tempos rapides, il était capable de donner un ostinato très rapide à la grosse caisse qui n'était pas forcément mesurée. La Charleston continuait et il faisait un motif qu'on a entendu sur Caravan, qui était toujours le même. Donc son solo était un peu toujours le même, mais c'était magnifique et à chaque fois renouvelé. Donc voilà un peu un des tics en tempo rapide. Il n'a pas beaucoup de technique, il faut quand même pas mal de technique pour faire ça. Et c'est surtout une signature sonore, c'est ça qui est magnifique chez Blakey.
Laurent Bataille, on vient d'évoquer le jeu de batterie d'Art Blakey. De quelques années, son cadet Philly Joe Jones, il était né en 1923, Blakey en 1919. C'est un style déjà très différent. Et d'ailleurs, vous avez changé des éléments de votre batterie pour l'illustrer.
Alors pour l'illustrer, parce qu'il s'agit toujours d'évoquer le plus précisément la voix sonore du batteur. Et c'est vrai que Philly Joe aimait les tailles un peu plus grosses. Donc une grosse caisse de 20 ou 22 pouces, des tomes un tout petit peu plus imposants eux aussi, un son un peu plus grave. Une caisse claire par contre plus précise. Philly Joe Jones avait une technique fabuleuse de main, de pied aussi d'ailleurs, mais il était ambidextre.
Alors on dit Philly Joe Jones, c'est pas Joe Jones. Voilà, hein. Joe Jones, c'était le batteur de Count Basie 20 ans auparavant.
Voilà, exactement.
Et Philly Joe parce qu'il était originaire de Philadelphie, tout simplement.
Tout à fait. Ouais. Et donc Philly Joe avait cette technique de main hallucinante, il était totalement ambidextre, et donc il va utiliser ce qu'on appelle les rudiments à la batterie. C'est-à-dire vraiment, il a tout le langage des rudiments militaires qu'il va faire swinguer sur la batterie et déplacer sur les tomes avec un phrasé qui sera également plus, on va dire... horizontale entre la caisse claire et la grosse caisse. Donc, quelques petits exemples de coups donnés par Philly Joe, lui aussi à ses plans, mais alors lui, il en a des dizaines, c'est un régal quand on est batteur et musicien d'écouter ses solos, très très virtuose du coup. Par exemple, tout ce qui est du langage militaire, donc il y a les flas, les rats, les ratamakus, etc. Je vous passe tous les détails, les moulins, les frisés, les roulés. Donc, quelques exemples de tout ça, voilà un peu ce que ça donne. Là, on voit qu'à l'inverse de Blakey, il maîtrise vraiment tous les doigtés. On appelle les doigtés le nombre de coups qu'on donne par main. Parfois, il pourra donner 3 coups de chaque main, comme ceci. Et effectivement, utiliser tous les coups de la batterie en insérant la grosse caisse, comme ceci. Avec des doublés à la grosse caisse, etc. Chose qui était un peu moins utilisée, y compris par Kenny Clarke, Al Becky ou les batteurs précédents. Bien sûr, on ne peut pas évoquer Philly Joe Jones sans le fameux coup de cross-stick sur le quatrième temps.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, en fait, ça peut être utilisé en jouant un thème à Charleston ou comme je l'ai illustré tout à l'heure avec Art Blakey. Mais Philly Joe, c'est vraiment Miles qui l'a révélé dans cette pratique-là. C'est-à-dire que ça donne ça sur quatre temps. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Il y a de la baguette qui est retournée sur le cercle. Ceci, soit avec la charleston, soit avec la cymbale.
Vous parlez de cross-stick, ce n'est pas la même chose que le rimshot ?
Alors, non, parce que le cross-stick est plus doux et ne fait pas résonner. Quelque part, la main est sur la caisse claire et la baguette vient se poser sur le cercle, alors que le rimshot est beaucoup plus puissant. Ça donne ça, le rimshot. C'est-à-dire qu'on joue à la fois le cercle et la peau. Bien entendu, avec sa propre manière de phraser, avec un son de cymbale différent, un placement différent, mais surtout ce qui fait que Philly Joe est très agréable à écouter, c'est sa relaxation, son phrasé, ses solos qui sont très virtuoses que j'ai évoqués, et cette perfection dans sa manière de phraser à l'intérieur des thèmes.
Une autre spécialité de Philly Joe Jones, c'est le jeu avec les balais, Laurent Bataille.
Philly Joe est magnifique, bien entendu, au balai, sachant qu'un balai ne rebondit pas. Tout ce qu'on peut utiliser avec une baguette en termes de rebond et de rapidité, avec le balai, c'est quand même un peu plus compliqué parce que ce sont des tiges de fer qui sortent d'un manche et c'est pas facile à jouer. Et lui, bien sûr, est incroyable au balai. Tous les coups sont vraiment maîtrisés. Quelques exemples au balai. Philly Joe, bien sûr, il y en aurait des dizaines à donner. Mais il y a cette liberté qui est amené avec les pieds, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer un ostinato au balai et s'amuser au cymbale charleston ou à la grosse caisse, ce que commençait à faire Blakey, mais vraiment chez Philly Joe, c'est très très bien maîtrisé. Alors bien entendu, il est magnifique dans les tempos rapides.
Merci beaucoup Laurent Bataille pour ces exemples à la batterie. Alors on va retrouver Philly Joe Jones en majesté, tout d'abord sur un tempo très rapide avec un solo de Philly Joe Jones et puis ensuite on l'écoutera aussi au balai. <t'-> Filet mignon, une composition du trompettiste Freddie Hubbard, ici avec Wayne Shorter au saxophone ténor, Cedar Walton au piano, Reggie Workman à la contrebasse, et puis bien sûr le héros du thème, Philly Joe Jones, en majesté à la batterie, dans une virtuosité absolument phénoménale ici, Laurent Bataille.
Ah, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les caractéristiques de Philly Joe, c'est-à-dire une caisse claire qui est très active, il donne des accents vraiment très régulièrement et d'une manière, d'une précision incroyable, même à ce tempo-là. D'ailleurs, il y avait des obligatos parfois entre Red Garland et lui ou Wynton Kelly et lui. Il y avait des genres de riffs qui marquaient à la caisse claire. Ouais. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais on entend que vraiment, c'est maîtrisé. Bon, le solo, on n'en parle même pas. C'est incroyable. Il a un langage d'érudiment qui est vraiment impressionnant. Et un son, surtout un son à la fois large, assez puissant, mais jamais dérangeant. Et un sens des nuances aussi très développé.
Philly Joe Jones, qu'on apprécie aussi, bien sûr, au ballet, ici, en trio, avec le pianiste Sonny Clark et le contrebassiste Paul Chambers. Le trio du pianiste Sonny Clark avec Paul Chambers à la contrebasse et bien sûr Philly Joe Jones à la batterie ici au ballet. C'était en 1957 et bien sûr c'était pour Blue Note. Alors après Art Blakey et après Philly Joe Jones, le troisième batteur qui nous intéresse ce matin, Laurent Bataille, c'est Art Taylor. Il est un petit peu plus jeune, il est né en 1929. Lui c'est un Harlémite, un New-Yorkais d'origine et on le retrouve dès 1956 à la tête de différents orchestres et puis beaucoup en sideman, il joue avec Miles Davis, il joue avec Thelonious Monk, il joue avec Coltrane. C'est un peu le continuateur d'Art Blakey ou une sorte de mélange d'Art Blakey et de Philly Joe Jones.
Ouais, et moi je dirais effectivement un mélange entre Blakey et Philly Joe. Il y a ce côté très africain qu'on retrouve dans certaines de ses compositions. Lui, il va utiliser beaucoup les tomes, etc. Mais il n'a ni la personnalité de l'un ni la personnalité de l'autre. En fait, c'est plutôt un suiveur, un excellent second couteau, on va dire, voilà, sans minimiser bien sûr son art.
Écoutez bien ici comment Art Taylor ménage son interaction avec le piano de Sonny Clark et puis comment il accompagne aussi le solo de Lee Morgan.
Voilà,
c'est
alors,
tout à fait virtuose.
On peut juste dire qu'à partir de 2 minutes, ça presse un tout petit peu. Vous allez voir, il n'avait pas la même précision du tempo que Philly Joe. Ça peut presser un tout petit peu.
Il lui sera pardonné. We'll be right back. CTA, une composition de Jimmy Heath sur un album signé par le trompettiste Lee Morgan avec Sonny Clark au piano, Dodd Watkins à la contrebasse et Art Taylor à la batterie. C'était en 1957, évidemment toujours pour le label Blue Note. On entendait particulièrement bien ici les petits arrangements avec le pianiste Laurent
oui,
Bataille.
Tout à fait, qu'on évoquait pour Philly Joe et qui sont ici très très bien interprété par
Sonny Clark avec Art Taylor.
Sonny Clark et Art Taylor, tout à fait.
Art Taylor que l'on peut aussi apprécier en solo dans un disque qu'il a signé sous son nom en 1960. Ça s'appelle 80s Delight et il a signé cette composition qui s'intitule Cuckoo and Fungi, donc une sorte de synthèse entre Blackie et Philly Joe finalement.
Tout à fait.
En 1960, la batterie d'Art Taylor dialoguant avec la conga de Potato Valdez. Laurent Bataille, on a évoqué jusqu'ici Art Blakey, Philly Joe Jones et Art Taylor. Le quatrième grand batteur du label Blue Note dans les années 60, c'est Billy Higgins. Alors lui, c'est un Californien.
Sans doute l'un de ceux qui a le plus enregistré pour Blue Note. C'est impressionnant le nombre de disques qu'il a à son actif. Et tous azimuts, c'est-à-dire il va être capable d'accompagner une bossa nova ou un rythme un peu funky et être vraiment, vraiment le passeur vers l'avant-garde.
Dès 1962, on l'entend tenir le groove pour ce succès de Herbie Hancock. We'll be right back. Watermelon Man, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Dexter Gordon, Butch Warren et bien sûr Billy Higgins à la batterie. C'était en 1962. Billy Higgins qui est de toutes les séances qui comptent à cette époque, les séances qui font le son du label Blue Note. On le retrouve aussi par exemple aux côtés de Lee Morgan, qu'on a déjà beaucoup entendu au cours de cette émission, mais qui signe un album emblématique qui s'appelle Sidewinder. Là c'est Billy Higgins.
Et ça tombe vraiment bien par rapport à toute cette mouvance. À l'époque il y avait Motown qui était là, toute cette mouvance un peu funky de l'époque.
Un son tout à fait typique du label Blue Note, c'était en 1963, The Sidewinder du trompettiste Lee Morgan, avec là encore Billy Higgins à la batterie, qui est tout à fait à son aise sur ce genre de rythmique, Laurent Bataille.
Il a un tempo exceptionnel, ça peut un tout petit peu ralentir parfois, c'est très très relax, très chaloupé, j'aime bien ce mot-là. Et on verra tout à l'heure avec les exemples qu'il amène quelque chose, vraiment, un dialogue très très différent entre les membres de la batterie.
Et on le retrouve aussi à l'aise dans un tempo de bossa nova. Thank you. 1965, un extrait d'un enregistrement signé par le saxophoniste Hank Mobley avec le trompettiste Lee Morgan, le pianiste Harold Mayburn, le bassiste Larry Ridley et puis bien sûr Billy Higgins à la batterie. C'était Riccardo Bossa Nova, enregistré bien sûr pour Blue Note par Rudy Van Gelder. Laurent Bataille, si l'on donne quelques exemples à la batterie du jeu de Billy Higgins, quel type de batterie vous allez prendre ? Celle de Philly Joe Jones ou plutôt celle d'Art Blakey ?
Alors, je prendrais plutôt celle d'Art Blakey en termes de taille, parce que souvent, j'ai évoqué pour les batteurs dans cette émission, la taille de la grosse caisse qui est assez petite, qui est une 18 ouais. pouces, qui sonne comme un tom en fait. Et Art Blakey a été l'un des premiers vraiment à se faire prendre en photo avec cette batterie ouais. qui était magnifique, Burgundy, une très belle batterie Gretsch. Et j'ai pris le soin de monter des pots animales d'ailleurs sur cette batterie, comme à l'époque. C'est-à-dire c'était des pots qui étaient roulés sur des cercles en bois et tout, c'était tout un son. Et c'est vrai que Blakey jouait beaucoup plus fort que Higgins. Higgins était un batteur très fin et cette taille-là, elle est très très bien à Higgins mm-hmm. parce qu'on entend cette finesse. Alors, il ne jouait pas exactement les mêmes cymbales. J'ai pris une cymbale riftée pour Higgins, mais je vais vous donner quelques exemples justement de son toucher surtout. On va différencier Art Blakey et Billy Higgins en termes d'énergie. Et les tailles 18, 12, 14 pour la grosse caisse tom médium et tom basse allaient très bien à Billy Higgins mm-hmm. parce que vraiment, il avait un toucher très fin. Alors qu'Art Blakey était dans une énergie beaucoup plus puissante. Donc on va rendre hommage à la prise de son de Catherine et à ce magnifique studio 106 en faisant sonner la batterie différemment. Donc ça, on sent que c'est Art Blakey, c'est vraiment très puissant. Le même latin chez Billy Higgins va être joué de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus groovy, comme ceci par exemple. Donc on est dans la même salle avec les mêmes baguettes et la même batterie, mais on sent que le son n'est pas du tout le même. Et Rudy Van Gelder était passé maître pour enregistrer justement ces variations. La batterie étant l'un des instruments les plus difficiles à restituer en jazz, on entend vraiment ça, cette magie de la prise de son de la batterie dans les studios Blue Note. Donc pour continuer avec Billy Higgins, il y a quelque chose qui est très différent d'Art Blakey et de Philly Joe Jones, c'est-à-dire qu'on passe vers l'avant-garde dans la mesure où il va utiliser pas mal de décalages qui étaient déjà un peu utilisés chez Philly Joe, Art Blakey ou Roy Haynes. Mais on va vers parfois sur 16 mesures ou 32 mesures des décalages. Et surtout, sa manière de jouer la batterie va être plus linéaire. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dialogue entre la cymbale et la caisse claire. Pour que les auditeurs comprennent, on était habitué donc avec Philly Joe, on l'a vu, à un discours caisse claire qui s'oppose à la cymbale qui reste à peu près similaire dans le ding-a-ding qu'on a déjà évoqué ici. Et voilà comment Billy Higgins jouait en alternant les coups entre la main droite et la main gauche. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Sachant que les cymbales Charleston étaient très peu utilisées chez Higgins, on n'entend pas le fameux « ch-ch » qu'on entendait chez Philly Joe et Art Blakey. Donc voilà ce que ça donne. 1, 2, 3. Quelque chose qu'on entend d'ailleurs chez Elvin Jones, pas mal, mais de manière beaucoup plus fine et subtile peut-être chez Higgins. Donc ça, c'est pour l'accompagnement entre guillemets traditionnel, swing. Après, on a entendu Riccardo Bossa Nova. Donc c'est vrai que c'est un musicien qui était employé pour tous les petits grooves qu'il avait, donc le Boogaloo ou la Bossa Nova. Donc voilà deux exemples. Le Boogaloo, par exemple. Il y a un vrai discours entre la caisse claire, la cymbale et la grosse caisse. Et en plus, il y a un petit côté un peu funky qui déjà émerge dans le jazz de cette époque-là. Donc pour le latin, c'est pareil, il va le jouer de manière très traditionnelle finalement, moins violente que Blakey. Et c'est très hypnotique en fait. Je pense que Billy Higgins sera très apprécié de leaders aussi différents, Cornett, Jackie McLean ou Lee Morgan, parce qu'il a un côté hypnotique dans sa manière de jouer. Et si on reparle du ding-a-ding, il a aussi une manière de jouer les trois coups presque égaux en relançant sans arrêt le deuxième coup qui est joué sur la cymbale, comme ceci. 1, 2 et 3, 2 et 3, 2 et 3. Et ça, on entend que ça avance tout le temps. On termine donc avec un petit exemple latin, comme Eureka de Bossa Nova. Toujours tout en finesse, toujours tout en swing, et il n'a jamais été égalé en termes de constance. D'ailleurs, Billy Higgins va faire le pont entre ce jazz groove et le jazz avant-garde. Il a cette liberté dans la tête, parce qu'en fait, c'est ça la différence. Par rapport à Philly Joe ou Art Blakey, il est prêt à ces nouvelles expériences. Le swing lui-même ne change pas tellement, mais c'est la manière d'aborder les grilles, peut-être de jouer derrière les solistes, et surtout ce côté hypnotique. Il est capable de jouer un 3 pour 4 pendant 32 mesures, c'est-à-dire de faire un décalage que je peux illustrer en 2 secondes. On est sur du 4-4. J'ai donné une illusion de 3 temps dans le 4-4. Et ça, ça peut durer, ça peut durer. Il y a ce côté qui n'existait pas, ou beaucoup moins, en tout cas, dans les années précédentes.
Des couleurs avant-gardistes, une pratique expérimentale que fera fructifier un petit peu plus tard son cadet Joe Chambers, mais que l'on trouve déjà donc en germe chez Billy Higgins, que nous retrouvons ici aux côtés de Jackie McLean en 1964. Action, une composition du saxophoniste Jackie McLean enregistrée chez Blue Note en 1964 avec le trompettiste Charles Tolliver, le vibraphoniste Bobby Hutcherson, le bassiste Cecil McBee et toujours Billy Higgins à la batterie. Là, on commence à aller vers l'avant-garde, vers l'expérimental, Laurent Bataille.
Oui, tout à fait. On a entendu que Billy Higgins était capable de cette très grande musicalité qui drive à chaque fois. C'est un driver et c'est peut-être la différence entre les swingers d'avant et ce qu'on appelle les drivers. Joe Chambers sera un peu pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même manière de penser le tempo, c'est plus penser à la cymbale et à la caisse claire, avec des unissons parfois entre la caisse claire et la cymbale, qu'avec les pieds. Vous savez qu'avant, j'aime bien dire que les pieds des batteurs, Art Blakey, Joe Jones, etc., servaient à faire danser, et la batterie venait plutôt des pieds, et là, avec cette nouvelle génération de batteurs, Tony Williams en fera partie, on entend cette cymbale, ce discours de cymbale, et cette unisson parfois entre la caisse claire et la cymbale, ou ce dialogue, qui fait que c'est plus moderne, bien entendu.
Vous venez de citer Tony Williams, à qui on a déjà consacré une émission. On va pas en reparler ce matin. Mais dans la même génération, il y a Joe Chambers. Voilà. Alors lui, il va encore plus loin que Billy Higgins.
Voilà, alors c'est un grand oublié parfois, alors que c'est un très grand musicien, très grand percussionniste, qui était dans M-Boom, la formation de Max Roach. Très grand percussionniste, très bon lecteur. C'est le cas de ce très bon percussionniste, donc Joe Chambers, qui est vibraphoniste. pianiste et batteur. Jack DeJohnette sera très influencé par lui, par exemple. Bill Stewart aussi,
plus récemment.
Parfois, il ne fait rien, mais il est capable d'une puissance incroyable. Il est capable de jouer des mesures impaires aussi, ce qui est assez nouveau dans le jazz.
Il est originaire de Virginie, où il est né en 1942. Il se fait repérer auprès d'Eric Dolphy à New York en 1963. Et à partir de 1964, on le retrouve très régulièrement sous l'étiquette Blue Note. Le voici ici en février 1965. Comme sideman pour le pianiste Andrew Hill, le soliste que nous entendons, c'est le saxophoniste Joe Anderson. We'll be right back. Harris, une composition du pianiste Andrew Hill, avec ici Freddie Hubbard au cornet, Joe Anderson au saxophone ténor, Richard Davis à la contrebasse et bien sûr Joe Chambers à la batterie. C'était en 1965, année faste pour le label Blue Note, avec beaucoup d'enregistrements où l'on retrouve ce formidable batteur Joe Chambers, souvent aux côtés de Herbie Hancock au piano ou de Bobby Hutcherson au vibraphone, des musiciens qui aiment expérimenter, aiment tirer ce label vers l'avant, vers l'avenir.
Oui, tout à fait, vers l'avenir, avec clairement ici un traitement du rythme totalement différent. C'est la volonté d'Andrew Hill, bien sûr, de générer des cassures, des équivalences, qu'on commence déjà à appeler des équivalences de tempo, etc. Et cette facilité qu'a Joe Chambers de jouer le thème le plus simple, parfois, d'être vraiment dans la tradition de ceux d'avant, avec ce qu'on appelle vraiment un drive magnifique et cette capacité aussi à être un peu plus bruitiste et intervenant.
Par la suite, le label Blue Note va être racheté et puis on a l'impression que la musique va un petit peu se déliter et que l'invention va se retrouver sous d'autres étiquettes, que Blue Note va perdre de son importance. Ouais. Est-ce que finalement la batterie qui avait joué un grand rôle dans le label Blue Note va retrouver ailleurs matière à expérimentation? Je pense à The Jonette chez ECM par exemple.
Motion, The Jonette, Blue Note quelque part est vraiment intéressant dans ces années-là et après bien sûr ça va vraiment... être beaucoup moins intéressant, même si Tony Williams continuera à enregistrer chez Blue Note, mais ça sera beaucoup moins intéressant que ça.
On se quitte avec l'une des belles réussites du label en 1965. C'est un disque signé par le vibraphoniste Bobby Hutcherson, ça s'appelle Components. À ses côtés, on retrouve une fois encore Freddie Hubbard à la trompette, l'altiste James Spalding, le pianiste Herbie Hancock et Ron Carter à la contrebasse, sans oublier Joe Chambers à la batterie.
Merci beaucoup Laurent Bataille d'être venu ce matin évoquer la batterie selon Blue Note. Alors vous évoquez la batterie au micro de France Musique, mais vous le faites aussi professionnellement en enseignant à la classe de jazz du conservatoire de Bobigny. Ça existe depuis quelques années déjà.
Tout à fait, oui, ça fait quelques années. Et là, le département est vraiment en voie de développement, donc c'est vraiment agréable d'y enseigner.
C'est la rentrée, les inscriptions sont ouvertes. Et puis le 20 septembre prochain, dans quelques jours, vous serez en concert avec Géraldine Laurent et Pierre Christophe au River Café. C'est à côté de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Merci à Catherine Dereté et à Emmanuel Armingue pour la prise de son, à Dorothée Gol qui m'a aidé à préparer cette émission et à Christine Amado qui l'a réalisée comme chaque semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau Matin Jazz avec Franck Bergerot. Nous évoquerons en deux émissions, mardi prochain et le suivant, la genèse du bebop. Soyez à l'écoute à 11h mardi prochain. Demain, c'est mercredi, le Matin des musiciens. Vous retrouverez Philippe Cassard. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner au podcast. Thank you.